Bonsoir à tous. C'est vrai qu'il y a quelque temps que je ne m'étais pas retrouvé dans cette église. Et c'est bon de pouvoir être là. Alors je suppose qu'on vous a fait circuler que je venais de Toulouse, du sud-ouest, avec un accent particulier. Donc merci de m'accueillir tel que je suis. En tout cas, le Seigneur m'a accueilli tel que j'étais. Et c'est déjà un grand point pour moi, c'est le plus important. Oui, c'est vrai que je suis aussi dans la joie du Seigneur de voir que de nouveau on revient sur ce sujet du Saint-Esprit. Dans quelques instants, on verra combien au travers des siècles et des siècles, ce sujet du Saint-Esprit est venu et revenu. Et vous savez vous-même que aujourd'hui, parmi le grand monde évangélique, c'est un des sujets qui est le plus traité, mais aussi un des sujets qui est peut-être le plus mal traité. Je ne dis pas du tout cela pour juger qui que ce soit ou critiquer quoi que ce soit, mais je me base sur les Écritures. Et je vous demanderai d'accepter que je cite de nombreux versets bibliques ce soir. Nous ne pourrons pas tous les lire, mais au moins, si vous voulez les prendre en note, je crois que c'est important dans le monde du tourmenté évangélique où on parle du Saint-Esprit. Je crois que c'est vraiment important encore ce soir de voir un maximum de versets de la parole de Dieu qui nous parle donc du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci de votre compréhension et sentez-vous libre aussi à la fin peut-être de s'exposer. Si vous n'avez pas noté certaines références bibliques, sentez-vous libre de venir et je vous les donnerai avec grande joie. Oui, je vous disais que toute la Bible évidemment parle de l'Esprit de Dieu. Mais je voudrais surtout peut-être lire un passage où nous voyons que le Seigneur, après avoir donné des quantités d'enseignements, à un certain moment, il va parler de l'envoi du Saint-Esprit. Et je sais que la plupart des versets, vous les connaissez, vous les avez lus, relus, peut-être d'autres non, on les a oubliés. Moi, je reconnais que depuis une dizaine de jours, en revoyant un peu le thème de ce sujet, la personne du Saint-Esprit, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de revoir des quantités de références que j'avais moi-même laissées un peu de côté. Alors, est-ce que vous voulez chercher avec moi, tout simplement, l'évangile de Jean. Et vous voyez déjà qu'est-ce que nous allons lire. Jean au chapitre 14, merci beaucoup. Jean chapitre 14. Voilà que pendant son ministère, nous sommes peut-être dans la deuxième année de son ministère, peut-être même au troisième, parce que déjà le chapitre 14 commence par « Que votre cœur ne se trouble point, n'est-ce pas ? Croyez en Dieu, croyez en moi. » Et puis, « Je vais vous préparer une place. » Donc, il commence à annoncer déjà son départ. Et nous savons qu'un des ministères de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, s'il est notre intermédiaire, dit la Bible, s'il est notre intercesseur, il est celui qui nous prépare une place. Et quand il l'aura tout préparé, la Bible dit, il reviendra et il nous prendra avec lui. Et pendant qu'il parlait donc de cette préparation, ne soyez pas troublés, recevez ma paix. Alors voilà ce qu'il leur dit à propos du Saint-Esprit. Et je sais que ce passage, je le redis, est bien connu. Vous y êtes, verset 16. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Et déjà, je fais une petite remarque. Vous savez que dans la Bible, et surtout, je pense à 1 Jean chapitre 4, il est parlé de l'esprit du mensonge et de l'esprit de l'erreur. Amen. J'ai ici l'Esprit de vérité en nous, en moi. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaîtrez. Car il demeure avec vous, eh bien, il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas. Non, je ne vous laisserai pas orpheline. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, oui, vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Je fais déjà une remarque, c'est là où nous voyons la présence de la Trinité, de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est là où je vois quelque chose d'important, c'est que Dieu fait la demeure en nous, le Seigneur fait la demeure en nous, et troisièmement, le Saint-Esprit fait la demeure en nous. C'est là où on voit la perfection de la Trinité, le Saint-Esprit, puisqu'on va parler de cela, est autant omniscient, autant omnipuissant qu'omniprésent. Amen. Et je continue dans ce passage, et nous allons continuer à voir dans cette personnalité donc du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Je reprends au verset 20, vous permettez, en ce jour-là, vous connaîtrez qui je suis, le Seigneur, en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous, les trois en nous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, alors c'est celui qui m'aime. Et il est dit ici, et celui qui m'aime, alors il sera aimé de mon Père, et moi, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, bien sûr, on aurait tous fait pareil, il interroge. Si on lisait le passage, il y a Philippe qui interroge, il y a Thomas qui interroge, la troisième interrogation, Jude. Jude, non, pas l'Iscariote, lui dit, mais Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non pas au monde? Ah, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, tu sais, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, amen, les trois, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendrez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je continue encore deux versets, merci. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en vous, alors en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et nous avons ici, dans la Trinité qui est là, les trois qui sont en nous, mais je vois un autre enseignement qui est en nous ici. Et c'est là où nous avons la certitude que la parole de Dieu, le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament, est poussée par le Saint-Esprit, inspirée par le Saint-Esprit, parce qu'il est dit ici, regardez, quand le Saint-Esprit sera envoyé, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est vrai que quand on étudie la parole de Dieu, quand on rentre dans la doctrine qu'on appelle la bibliologie, la doctrine des saintes écritures, on sait que, oui, le Nouveau Testament n'a été écrit qu'au départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a choisi des hommes, les a inspirés, et c'est là où, en choisissant ces hommes, remplis du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va leur rappeler tout ce que le Seigneur avait dit. Tout ce que le Seigneur avait enseigné. Et puis, il vous enseignera toutes choses. Et plus, et je suis d'accord avec toi Didier, plus je serai rempli du Saint-Esprit, plus je me laisserai enseigner. Enseigner par la parole, et qui dit la parole, c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Et je me laisserai conduire, pousser par Dieu. Bien, mais il me manque quelque chose ici. C'est que la Bible n'est pas complète. Et c'est pour cela que je vous invite, et vous le savez sans doute, hein, mais allez dans le chapitre 16 de Jean, Jean chapitre 16, et voilà ce que le Seigneur continue à enseigner sur le Consolateur, sur le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, etc. Et à un certain moment, il dit, et je voudrais ce soir m'arrêter, vu le sujet, m'arrêter sur le verset 13 de Jean 16. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, j'insiste, vous savez que la Bible parle de l'esprit de mensonge et de l'esprit de l'erreur. Amen. Nous avons un esprit en nous qui est l'esprit de vérité. Alors il dit, il vous conduira dans toute la vérité. car il ne parlera pas, non, de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, et il vous annoncera les choses à venir. Et vous savez que la parole de Dieu est remplie de prophéties. Et alors, s'il y a une partie de la Bible où c'est rempli de prophéties, mais c'est le Nouveau Testament. Et nous savons que s'il vous annoncera tout ce qui doit arriver, nous savons que la Bible termine entre autres par l'Apocalypse. Et nous savons que nous avons au travers de toute l'Apocalypse tout ce qui va arriver dans la fin des temps. Amen. Moi, je me réjouis, je dis merci Seigneur ce soir parce que j'ai la Bible au complet qui est là. Le Saint-Esprit qui est là. Et alors cela veut dire quelque chose, c'est que oui, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit, j'ai noté. Nous devons laisser vivre, apprendre à vivre par l'Esprit. Nous devons être conduits par l'Esprit. Si on regardait, notez-le, vous connaissez le passage dans Galates au chapitre 5, quand l'apôtre Paul de la part de Dieu parle du fruit de la chair et du fruit de l'Esprit. Quand il parle du fruit de l'Esprit, il dit qu'il faut qu'on apprenne à marcher par l'Esprit, qu'on apprenne à être conduit par l'Esprit. Est-ce que je veux apprendre à cela? Est-ce que pour moi, cette rencontre avec le sujet du Saint-Esprit, est-ce que réellement ce sera un renouveau pour moi, pour vivre avec le Seigneur et apprendre à me laisser conduire par le Saint-Esprit? Revenons en arrière. Je vous disais que, oui, s'il y a un des sujets depuis le début du XXe siècle qui est débattu, qui est commenté, je ne sais plus combien de congrès j'ai noté, je ne sais plus de combien de conventions, de séminaires, de réunions spéciales sur le Saint-Esprit. Incroyable. On parle de quantité de sujets, mais alors le Saint-Esprit vraiment aussi applique pour voir un peu. Et puis, c'est là où j'ai l'impression que plus on essaye peut-être de s'appliquer, si réellement on n'est pas conduit par Dieu, voilà que nous commençons à dévier, à nous égarer dans des quantités d'explications et interprétations qui ne correspondent plus à la vérité. Oui, tu as bien fait Didier de le rappeler. Je me rappelle de 1977, je crois Tim, tu étais là et d'autres étaient là, où nous avions des grands hommes de Dieu qui étaient là, John Alexander, les Dubois et compagnie, Peter Meyer et j'en passe, n'est-ce pas, de quantité d'autres. Et en 1977, ces hommes de Dieu qui sont là encore pour nous encourager, nous enseigner, pour être des modèles pour nous, ils avaient eu à cœur, parce que ça commençait à bouillonner dans le monde évangélique, ils avaient eu à cœur d'avoir un congrès sur le Saint-Esprit. Et on l'a eu donc à Toulouse. Alors depuis 1967, vous le voyez, plus de 30 ans, que de congrès partout, que de manifestations. Oh là là, on parle de baptême de l'Esprit sans arrêt. On parle de deuxième vague, troisième, quatrième vague, mais où c'est que nous allons? Et pardonnez-moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour critiquer, pour juger tout ce que l'on entend, mais ça me fait mal, parce que on s'égare de plus en plus. Un témoignage personnel cet été à Toulouse, justement dans une de ces églises où on parle constamment du Saint-Esprit. J'ai rencontré une sœur et qui m'a dit « Oh, viens au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va descendre ». Alors j'ai dit, mais tu sais qu'il est déjà descendu, le Saint-Esprit? Est-ce que tu as relu Actes chapitre 2, etc.? Et puis on s'est quitté sur ces mots. Mais j'ai été sincère avec lui, j'ai préféré lui dire, n'est-ce pas? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu attends, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est déjà descendu. Oui, quand on regarde un peu l'histoire de l'Église, puisque le sujet est la personne du Saint-Esprit, quand on regarde un peu l'histoire de l'Église, n'est-ce pas? Que de fois il y a eu des conciles, 3e, 4e, 5e siècle, où un des sujets, c'était le Saint-Esprit. Permettez-moi de vous rappeler quelques petits faits historiques qui sont intéressants, je crois, ce soir. Merci de l'accepter. On parlait bien sûr, entre autres, de la divinité du Seigneur, dans les congrès de Nicée, dans les conciles de Nicée, dans les conciles de Constantinople. Mais j'ai noté que, oui, dans le concile de Nicée en 325, le concile de Constantinople en 381, on a parlé, oui, entre autres, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais on a parlé, entre autres, de est-ce que le Saint-Esprit est divin, est-ce qu'il est lui aussi Dieu. Et puis, il y a eu cette période avec sans doute cet homme que vous avez entendu, Arius, qui disait que le Saint-Esprit avait été créé par le Fils. Ouh là là, où c'est qu'on le voit ? Je suis incapable de vous donner une seule référence. Et puis, j'ai noté qu'un peu plus tard, un fameux Macédonius, qui était évêque de Constantinople, nous sommes dans les années 341-360, bref, lui disait que c'était la créature, le Saint-Esprit, subordonné au Fils. Je m'excuse, je ne l'ai jamais vu dans la parole de Dieu. Juste pour vous dire que donc, 3e, 4e siècle, etc., déjà, voilà que cette doctrine du Saint-Esprit, elle était tout à fait malmenée. Je comprends pourquoi aujourd'hui, dans la plupart des écoles bibliques, on a au moins 30 heures de cours sur une doctrine, la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. C'est plus qu'important aujourd'hui, dans nos écoles bibliques, de passer du temps dans la parole de Dieu et de voir ce que Dieu nous dit sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois que c'est important. Alors, on ne va pas y passer 32 heures aujourd'hui, vous l'avez compris. Rassurez-vous. Non, pas du tout. Mais que le Seigneur nous dirige pour voir l'essentiel. Je crois que c'est ça. Qu'on voit l'essentiel ce soir. Oui, je crois qu'il est important pour nous de se rappeler aussi que, oui, peut-être ce qui parfois nous dérange, c'est que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, on voit que les trois, dès la Genèse, Genèse chapitre 1, jusqu'à Apocalypse, n'est-ce pas ? On voit le Saint-Esprit, on voit Dieu, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Mais c'est vrai que la parole de Dieu elle-même nous dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous rappelle le texte qui est dans l'Épître aux Hébreux, dans les Épîtres aux Hébreux, tout simplement, au chapitre 1, notez-le, passage bien connu. Voilà ce que nous dit de la part de Dieu l'auteur de l'Épître aux Hébreux, verset 1. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Et puis le Seigneur, puisque là il est parlé de Dieu qui choisit des prophètes pour nous parler, deuxièmement, il envoie son Fils pour nous parler dans ces derniers temps, dit-il. Voilà que le Seigneur, nous l'avons vu tout à l'heure, dans son enseignement, troisième point, dans Jean chapitre 14, il dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit ». Et le Saint-Esprit a été envoyé. Il est là, oui, mais de nouveau, je le rappelle, qu'à partir de Genèse chapitre 1, l'Esprit de Dieu était là. Les trois étaient là. Et les trois se sont manifestés ensemble. Alors, est-ce que les trois sont Dieu ? Oui ! Je ne sais pas si parmi vous, il y a un professeur de mathématiques. Voilà, il n'ose pas lever la main, pardon. Parce que je vais vous donner, bien sûr, une théorie mathématique qui est biblique, mais elle n'a rien à voir avec nous. Parfois, on a la tentation de dire que la Trinité, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 3. Mais dans la mathématique de Dieu, c'est pas ça. 1 égale 1 en ce qui concerne la Trinité. Pourquoi ? Parce que j'ai vu dans la parole de Dieu, et c'est bon, très bon de le rappeler ce soir, puisque nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est autant omnipuissant, autant omniprésent, deuxièmement, et autant omniscient. Et c'est pour cela que non, ce n'est pas parce qu'on va ajouter Dieu plus le Seigneur, plus le Saint-Esprit égale 3 qu'on va obtenir ces 3 omnis. Les 3 sont remplis de la même puissance. Amen. De la même présence et de la même omniscience. Et ça, c'était important de le voir. C'est ce que nous avons vu au travers de la parole de Dieu. Mais je vous rappelle quelques versets qui vont nous éclairer là-dessus, sur, puisque nous sommes dans le thème de la personne du Saint-Esprit. Je dis qu'il est omniscient, oui. Je me suis rappelé de ce psaume 139, verset 7, où il est dit, mais où irais-je loin de ton esprit? Tu y es, tu sais tout, n'est-ce pas? Il sait tout. On peut s'éloigner. L'Esprit de Dieu est là. Deuxièmement, je vous disais, l'Esprit de Dieu, oui, omniscient, il sait toutes choses, mais oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, entre autres, ce Jean 14, verset 26, quand je l'ai lu, je vais vous le rappeler, mais voilà ce qui nous est dit ici, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est donc omniscient, il sait tout. Est-ce que je me laisse guider par le Saint-Esprit, puisqu'il sait tout, et en même temps avec le Seigneur qui est à moi? Omniprésent, d'accord. Deux, omniscient. Trois, omnipuissant, amen. J'ai relevé ce Romains 15, 13, ce 1 Corinthiens 2, 4, qui le dit. Il est omnipuissant, n'est-ce pas? Il est là. J'ai noté dans Hébreux 9, 4, il est éternel. Oui, mais la Bible dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu, la Bible dit que Dieu ne change pas. Il est toujours le même, il ne varie pas, il est de toute éternité le même. Ah, mais alors ça correspond aussi au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et etc. Alors c'est là où, pour moi, ça y est, pour moi au moins c'est conclu. Oui, le Saint-Esprit est Dieu, n'est-ce pas? Il a les mêmes qualités que Dieu le Père, que Dieu le Fils. Il est là. Et puis, il est éternel. Alors, j'ai noté quelque chose d'important, c'est que je ne vous connais pas tous en particulier, mais je sais qu'au moins j'ai une preuve devant moi. Vous êtes tous nés de la chair. Nous sommes là. Nous sommes tous nés d'un père et une mère. Ah oui, alors laissons de côté la science avec toutes les possibilités aujourd'hui. On laisse ça de côté, mais d'accord ? Oui, mais là, je ne sais pas si tous vous êtes nés de l'Esprit, nés de Dieu. C'est ça le point de départ, pour comprendre le Saint-Esprit en moi. Vous savez vous-même qu'il y a un homme, un grand homme, allez, on va te dire de Dieu, un grand touka, un grand docteur de la loi. Vous voyez de qui je veux dire, Nicodème, très très connu à ce moment-là, dans le monde hébraïque, dans le monde juif, membre du Sanhédrin, etc. Et il ignorait certaines choses. Et je vous rappelle ce qu'il ignorait, c'est que Jésus-Christ est obligé de lui dire, à ce grand grand docteur de la loi, dans Jean chapitre 3, il lui dit à un certain moment, mais Jésus lui répondit, verset 5, « en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, E majuscule, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et puis il lui dit, écoute-moi, ce qui est né de la chair, tu es né de la chair? Oui. Ben, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit, E majuscule, est esprit. Alors ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Tu as été dirigé par l'esprit Didier pour nous choisir ce cantique. Il faut naître de nouveau. Point de départ. Et quand nous naissons de nouveau, ça veut dire que le Saint-Esprit est en nous. Nous avons ce baptême de l'Esprit. Le Seigneur entre nous, oui, mais il faut d'abord le pardon des péchés, cette repentance où on reconnaît qu'on ne vaut rien, qu'on est condamné, qu'on est dégoûtant, et qu'on a besoin de naître de nouveau. Et ça, c'est impossible à une méthode quelconque humaine. Il n'y a que la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Seigneur, qui peuvent nous faire naître de nouveau. Point de départ. Ça y est, je suis né de nouveau, j'ai noté ici. Et alors, à ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi qui va se passer. C'est que la Bible dit que le Saint-Esprit, puisque nous sommes dans le thème du Saint-Esprit, la Bible dit, entre autres, dans Éphésiens chapitre 1, que le Saint-Esprit va nous sceller. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous connaissez la particularité d'un sceau, mais la particularité d'un sceau, c'est le signe de la propriété. Le sceau, c'est le signe que Celui qui le pose, c'est lui seul qui a le droit de l'enlever éventuellement. C'est tout. Je ne sais pas si vous avez été dans le domaine juridique, mais quand on place des scellés sur une porte dans une maison, surtout ne le touchez pas. Alors là, vous risquez vraiment une peine très forte. Il n'y a que le juge ou l'huissier, bref, qui a le droit d'enlever ce sceau. Amen. Alors, puisque c'est le Seigneur qui place ce sceau à moi, je sais qu'il n'y a que lui qui peut l'enlever. Mais comme la Bible me dit, entre autres, « Nul ne les ravira de ma main », alors je sais, j'ai la certitude, amen, du salut. Parce que le Saint-Esprit est là, attends moi. J'ai été scellé par lui. Ça y est, je lui appartiens. Ça y est, maintenant, je vais avancer avec lui. Je suis né de nouveau. J'avance avec lui. Rien ne pourra se séparer. Je ne sais pas si vous avez entendu cette illustration qu'on utilise souvent parmi les enfants pour qu'ils comprennent que quand nous sommes au Seigneur, ça y est. Alors on dit, écoute mon garçon, regarde. Tu vois, je vais me remplir cette bouteille d'eau. Alors on la remplit d'eau et puis on lui dit, passe-moi le flacon là de grenadine. Alors il va chercher le flacon de grenadine et puis on prend le flacon et puis on le verse dans l'eau. Et puis, oh là là, il devient là d'une couleur très agréable. Et on dit au petit garçon, je voudrais, tu sais, que tu me fasses quelque chose. Ah, oui. Je voudrais que tu me sépares l'eau de la grenadine. Alors là, évidemment, là. Alors, j'y connais rien en physique, en chimie, etc. Peut-être qu'il y a une formule chimique. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire ? Excusez-moi, c'est très simple ce que je viens de dire. Mais moi, il me faut des choses simples pour que je comprenne que j'ai la garantie du salut. Amen. Et que le sceau du Saint-Esprit est là. Et que rien, la Bible dit dans Romains chapitre 8, j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ça y est, le Saint-Esprit est là à moi. Si vous voulez que, peut-être j'insiste un peu pour que l'on comprenne cela, j'ai noté, pensons à notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre bon berger. Il est notre résurrection et vie, il est notre pain de vie, il est notre berger. Pourquoi je dis ça? Parce que, je ne sais pas aujourd'hui, mais dans l'ancien temps et dans le Moyen-Orient, un troupeau, quand il appartenait à un certain berger, il y avait un sceau sur chaque brebis, une marque. Et on savait qu'on n'appartenait pas à un autre troupeau. Et immédiatement, le berger reconnaissait ses brebis. Et les brebis le reconnaissaient à quoi ? À sa voix. Vous connaissez ce passage. Leur marque, le sceau qui est là. Est-ce que vous avez en vous le sceau du Saint-Esprit ? La marque du Seigneur ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir ? Je ne vous connais pas, c'est pour ça que je lance cet appel de la grâce de Dieu. Nous sommes dans un jour de grâce. Est-ce que quelqu'un veut passer de la mort à la vie ? Est-ce que quelqu'un veut, pour la première fois, sentir en lui la présence de Dieu, du Seigneur, du Saint-Esprit en lui ? C'est ça l'important. Bien, le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes scellés pour tout. Voilà un des ministères de la personne du Saint-Esprit. Alors maintenant, le Saint-Esprit, il va faire des quantités de choses à nous. Il va par exemple nous enseigner, on vient de le voir ici dans Jean 14, 26. Plus je vais lire la parole de Dieu, plus je vais m'arrêter, la méditer, je sais que la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, est inspirée par le Saint-Esprit. Alors, je vais me laisser conduire, diriger par les paroles de ce que Dieu a dit. Et nous allons prier. C'est quelque chose que je ne fais pas régulièrement. Mais pendant qu'on lit la parole de Dieu, de dire dans notre secret intérieur, « Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi comprendre ce que je suis en train de lire. » Vous comprenez ? C'est ça. C'est pas du tout ça. Quelqu'un, un des prédicateurs, a dit, « Lire un peu la Bible. » Ne le prenez pas mal, hein, ce qu'il a dit. « Lire un peu la Bible. » Méditez beaucoup la Bible et priez sans cesse. Alors je sais que certains, je le comprends, vous pouvez me dire tout à l'heure, Samuel, lire un peu, bon. lisez la quantité qu'il faut pour vous. Mais je crois qu'on laisse de côté la méditation et la prière pendant que l'on lit. Éclaire-moi, Seigneur. Le Saint-Esprit est en nous. Amen. Eh bien, un de ses ministères, on vient de le lire, il est là pour nous enseigner. Encore autre chose. Ça fait mal, ça. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Jean 16, 8, 11. Souvent, on dit, « Oh, le Saint-Esprit, oui, il convainc de péché, de justice et de jugement. » Pour les autres, on va prier pour que les autres soient convaincus de péché, de justice et de jugement. Mon pauvre, moi aussi, j'en ai besoin d'être convaincu de péché. Sinon, je ne vois pas pourquoi le Seigneur dit dans la Bible à l'Église, à plusieurs églises, « Repentez-vous. » Et avant de se repentir dans une église, il faut qu'on soit tous convaincus de péché. Et c'est à ce moment-là où on se repent. Est-ce que je me laisse convaincre par le Saint-Esprit encore aujourd'hui, même si je suis un enfant de Dieu, par le Saint-Esprit? Jean 16, 13, un autre ministère, « Il me conduit dans la vérité. » Amen. Alors, attention, parce que je vous disais tout à l'heure de mémoire, dans 1 Jean chapitre 4, il est dit « Éprouvez les esprits » pour savoir si c'est un esprit qui vient de Dieu ou un esprit qui vient du malin, de l'Antichrist. Et dans ce même passage de 1 Jean chapitre 4, il est parlé de l'esprit de l'erreur et de l'esprit du mensonge. Alors oui, conduis-moi dans la vérité. Et c'est pour cela que je reviens un peu en arrière. Il est important pour moi de lire la Bible et de la méditer pour que je sois de plus en plus conduit par la vérité, non pas conduit par mes convictions, par mon esprit personnel ou par un esprit extérieur. Non, conduit uniquement, poussé par le Saint-Esprit. Je continue. Un des ministères du Saint-Esprit, c'est de me réconforter. Actes chapitre 9. Verset 31. Alors que Paul, et bien sûr, il le dit lui-même, il le déclare, il a été pendant des années, des dizaines d'années, un blasphémateur. Il dit un homme violent, un meurtrier. Et là, il vient de se convertir. 3 jours, dit la Bible, Actes chapitre 9. 3 jours où il est resté sans voir. Il était en train, sans doute, de confesser ses péchés. Sans doute que le Seigneur était en train de lui dire, tu as compris les horreurs que tu as faites. Et maintenant, bien sûr, on se méfie de lui. Et il y a eu un homme qui vraiment a eu beaucoup de patience avec lui. On l'oublie souvent. Barnabas, fils de l'exhortation. Et il s'est approché de lui, Actes chapitre 9. Et par l'Esprit de Dieu, il l'a réconforté. Il lui a dit, écoute, viens. Je sais que ici à Jérusalem, il y en a qui se méfient de toi. Il y a un esprit de méfiance, mais viens, Seigneur. Viens. Et puis petit à petit, amen. Le Seigneur l'a réconforté au travers de l'apôtre Barnabas. Je le considère comme un apôtre. Oui, oui. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? On l'a vu tout à l'heure. Il demeure en nous. Jean 14, 17. Je l'ai lu peut-être un peu rapidement, hein, ce passage, mais maintenant qu'on voit en détail, il demeure en nous, oui, bien sûr. Je répète le verset, Jean 14, 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Alors, il est en moi. Il demeure en moi. Il va donc me diriger, m'éclairer. Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit en moi, en chacun de nous, est là pour nous affermir. Éphésiens 3, 16. Le Saint-Esprit, encore la personne du Saint-Esprit en moi, vous le savez, c'est pour m'aider à prier. Romains 8, verset 16, où il est dit qu'il est là pour nous aider, pour intercéder. Parfois, nous ne savons pas comment prier, comment intercéder. Laisse-toi, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mais oui, le Saint-Esprit, c'est une épée. Ah, vous dites oui, mais c'est la parole de Dieu. Oui, mais vous oubliez que j'ai moi aussi oublié de vous le dire, que quand on a vu la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, il est dit que Dieu est esprit. Ah. Et puis il est dit aussi dans 2 Corinthiens que le Seigneur est esprit et que là où le Seigneur est l'esprit. Ah, pas de problème donc pour moi. Les trois forment un. Et donc, Oui, la parole de Dieu est une épée. Si la parole de Dieu est parfois un bon pain, n'est-ce pas? Ah, c'est agréable. Si la parole de Dieu est du miel, amen. Oh, j'aime ça, bien sûr. Si la parole de Dieu est du lait, amen. Oui, mais on oublie que la parole de Dieu est un marteau. La parole de Dieu est un feu. Et la parole de Dieu est une épée. Et c'est pour cela que la Bible dit ici dans Éphésiens au chapitre 6, je vous relis ce verset, c'est le verset 17. Prenez avec vous le casque du salut et l'épée de l'esprit, E majuscule, qui est la parole de Dieu. Et donc je vais utiliser la parole de Dieu comme l'arme pour combattre. J'y vais. Et puis, permettez-moi, on arrive petit à petit à la fin, il y a tellement de choses à dire sur la personne du Saint-Esprit. Mais j'ai encore, peut-être que le Seigneur me dirige à vous partager certaines choses qui sont là. Oui, je crois que le grand problème que nous avons, et je ne voudrais pas, attention, à toucher à ce que David et ce que Tim vont présenter, mais vous savez que quand on prend un sujet comme cela, aïe, 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 on grignote un peu ici et là. Hein. Mais je sais qu'ils vont le redire et ça ne fera que du bien, que du bien. La personne du Saint-Esprit, la personnalité donc du Saint-Esprit, très bien. Alors quand on parle de personne ou de la personnalité du Saint-Esprit, c'est quelque chose donc... J'ai noté ici de particuliers. C'est un ensemble de particularités qui sont là pour nous présenter cette personne. Et nous venons de le voir. Mais voilà. Il ne suffit pas de parler pendant une heure du Saint-Esprit et de la personne du Saint-Esprit. Mais il faut se rappeler d'une chose. Est-ce que toi, ta personne, ta personnalité est prête à disparaître ? Est-ce que tu es prêt à laisser l'action entière de l'Esprit de Dieu en toi ? Pourquoi ? Peut-être que nous avons oublié, et je vous donne les références et je vous dirai pourquoi. Peut-être que nous avons oublié 1 Corinthiens 3,16. Peut-être que nous avons oublié 1 Corinthiens 6,19. Peut-être que nous avons oublié 2 Corinthiens 6,16. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que c'est des versets qui disent « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Mais le verset dit aussi « Vous êtes le temple de Dieu, le temple du Seigneur ». Et c'est ça qui est important. Et c'est là où on voit de nouveau cette parfaite unité, un, et non pas un plus un plus un. Quand je parle de Dieu, c'est comme si je parlais du Seigneur. Quand je parle du Seigneur, c'est comme si je parlais du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que ces trois versets me présentent moi sale, dégoûtant, moi pauvre pécheur, sauvé par grâce, racheté. Et le Seigneur dit, eh bien, tu vas devenir maintenant mon temple. Le Saint-Esprit me dit, tu deviens mon temple. Troisièmement, le Seigneur dit, tu deviens mon temple. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Ça y est, il est en nous. Et à ce moment-là, ça veut dire que je vais le laisser vivre ce Saint-Esprit en moi. Mais je vais laisser en même temps le Seigneur vivre en moi et Dieu vivre en moi. C'est pour cela que des fois, aïe, 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 on a des difficultés, n'est-ce pas ? On parle de Dieu, on parle du Saint-Esprit, on parle du Seigneur, on est là, on ne sait pas. C'est normal. C'est normal, les trois sont un. Mais arrêtons-nous quelques minutes pour terminer sur maintenant ma personne. Puisque je deviens le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur, à moi ? Que veut faire donc le Saint-Esprit à moi ? Alors je vous rappellerai d'abord quelque chose, c'est que si le Saint-Esprit habite en moi, ça veut dire que j'ai été vidé de l'esprit méchant qui était en moi. La Bible, puisque j'ai insisté beaucoup sur 1 Jean chapitre 4, il est parlé du, je reviens dessus, pardonnez-moi, mais l'esprit d'erreur, l'esprit de mensonge, Et alors, est-ce qu'on a oublié ce que l'apôtre Jean nous dit à un certain moment? Il dit, celui qui est en vous est plus saint que celui qui est dans le monde. Voulant dire qu'auparavant, j'étais dans les ténèbres. Auparavant, j'étais entièrement, peut-être dirigé par la volonté du diable, par la volonté, deuxièmement, des autres, il est dit, des païens. Maintenant, je vais être dirigé par la volonté de Dieu. Ça y est, Dieu m'a arraché, dit la Bible, des ténèbres, et il m'a mis dans son royaume. Il m'a arraché des ténèbres, il m'a arraché du péché. Ça y est, maintenant, tout est à l'extérieur de tout ce qui est le plus sale, mauvais, ténébreux. La puissance du mal est derrière moi ou en dehors de moi, peu importe. Maintenant, en moi est Dieu, et le Seigneur, et le Saint-Esprit. On vient de le lire. Je deviens le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu du Seigneur. Bon, très bien. Mais voilà, il va falloir que j'apprenne à vivre par l'Esprit, à marcher par l'Esprit. Il va falloir que, comme dit Galates, chapitre 5, il est dit, ne cherchons pas une vaine gloire de nous provoquer, ne vivons pas selon la chair, vivons par l'Esprit. Les fruits de la chair, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, c'est les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, etc. Mais voilà que parfois, peut-être que moi je ne fais pas assez attention à une chose. Laquelle ? C'est que, oui, le Seigneur veut vivre pleinement en moi. Oui, le Seigneur veut entièrement être en possession de moi. Est-ce que nous avons oublié que dans Éphésiens, au chapitre 5, il est dit « Soyez remplis de l'Esprit », dit « Veillez à cela ». Alors, je vais veiller à une chose parce que Dieu me le demande. Puisque maintenant j'appartiens au Seigneur, que l'Esprit de Dieu est en moi, que le Seigneur est en moi, le diable est à l'extérieur. Est-ce que je vais me permettre quand même de la plaisanterie, de la comédie, de faire n'importe quoi? Pas du tout. Sinon, j'ai noté ici, si vous permettez, 7 versets, je vous les lis rapidement. Dieu dit dans 2 Corinthiens 2:11, « Ne laissez pas l'avantage à Satan. » Ça veut dire que, deuxième verset, il est dit que le diable rôde autour de nous, cherchant qui il dévorera. Il n'est plus en nous, mais il est autour de nous. Pourquoi ? Ne laissez pas l'avantage à Satan. Je pense à un troisième verset bien connu. Attention, l'ange de lumière, c'est Satan. Il se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14. Et si je ne laisse pas le Saint-Esprit m'éclairer, je vais dire ça c'est lumière. Et peut-être qu'au bout d'un certain temps, je vais dire, mais non, c'est ténèbres. Attention. Je vous donne un autre verset. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Toujours extérieur. Ça y est, l'Esprit de Dieu est à moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, mais à l'extérieur, attention, hein. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous permettez un dernier verset? Puisque nous étions en train de parler des armes spirituelles, est-ce que vous avez oublié à quoi nous sert le bouclier de la foi? Je vous le rappelle, je sais que vous le savez. Mais à propos du bouclier de la foi, verset 16, Éphésiens 6, il est dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Les traits enflammés du malin. Extérieur. Mais si nous n'avons pas constamment ce bouclier de la foi, les traits enflammés vont nous atteindre. Ah ! Et ça y est, je vais avoir une blessure. Il va me falloir du temps, peut-être, à revenir au Seigneur. Il va falloir du temps pour la convalescence de cette grosse blessure que j'ai en moi. Ah ! Si j'avais oublié, si j'avais, pardon, utilisé le bouclier de la foi. Je ne sais pas si vous avez regardé de près ou si vous avez été dans des manifestations où il y a les forces de l'ordre, les CRS, les gardes mobiles. Je les ai observés une fois à Toulouse de loin. Et on leur balançait bien sûr des cailloux, on leur balançait des molotovs et compagnie de choses. Et sans arrêt, ils étaient en train d'essayer de sans arrêt de stopper le projectile qu'ils allaient recevoir. Et j'ai pensé à cela, n'est-ce pas ? Par-dessus tout, porter le bouclier de la foi. Et nous ne le faisons pas assez. Vous comprenez pourquoi ? Nous avons parfois ces moments où on s'arrête, où on tombe, parce qu'on oublie d'utiliser ce bouclier de la foi. Alors, que faire, mes frères et sœurs ? Je vais laisser vivre le Seigneur en moi, pleinement en moi, puisque je suis dans Éphésiens, chapitre 6. Permettez, je vais au chapitre avant. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors entretenez-vous par des psaumes, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, ce que nous avons fait en partie ce soir. Et puis rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La remarque que l'on fait souvent quand l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, dit « D'une part, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. » On a l'impression que Dieu veut nous faire comparer deux hommes, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme charnel, je ne sais pas si vous avez vu malheureusement quelqu'un qui est ivre, il n'a plus le contrôle de lui. Il dit n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Amen. Eh bien, pour l'homme spirituel, c'est pareil. Celui qui est conduit par l'Esprit, il est rempli de l'Esprit. Oh, il n'est pas rempli d'une gaieté, mais il est rempli d'une des particularités du fruit de l'Esprit, la joie, et non pas cette gaieté provoquée par l'alcool. Deuxièmement, l'homme spirituel, il est sous le contrôle, ses paroles du Saint-Esprit. Tout ce qu'il dit vient de Dieu. Et troisièmement, l'homme spirituel le contrôle dans la volonté de Dieu et non pas de sa propre volonté. Est-ce que nous voulons être comme cela ? Est-ce que nous avons oublié ce que le Seigneur dit ? Nous avons tout pleinement à lui ? Est-ce que nous avons oublié ce que l'apôtre Paul a expérimenté dans Galates chapitre 2 ? Mort ! Moi je suis mort ! Et si je vis, je vis en Christ. Il était mort. Il ne vivait que par le Seigneur, par l'Esprit. J'ai lu il y a quelques mois, avant l'été, cette histoire, peut-être que vous l'avez lue, de cet homme, de cette famille, qui a reçu tout d'un coup chez lui une lettre en leur disant que, bon, il y avait quelqu'un de très important qui était décédé et qu'ils étaient donc les héritiers d'un château et puis de plusieurs maisons, d'un grand domaine. Alors, je ne sais pas comment vous alliez réagir, vous, mais moi, je me vois en train de réagir, bien sûr, un peu bizarre, n'est-ce pas ? Et alors, pour aussi, c'était un peu bizarre, n'est-ce pas, pour ce père, cette mère, ses trois enfants. Et puis, les voilà, je passe sur l'histoire, quelques mois après, ils ont pris possession de ce grand domaine avec ce château et avec ces différentes maisons. Et puis, voilà qu'un jour, le notaire est venu les voir. Alors, bien sûr, ils ont fait la grimace, ils ont dit, aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on a oublié un document ? Est-ce que... Vous savez, je peux vous en parler, j'ai travaillé pendant 40 ans dans les assurances, alors chaque fois que j'avais quelqu'un au guichet, il venait avec l'original. Ah non, il faut la photocopier. Bien. Alors il venait, mais vous avez oublié de faire signer ça par votre épouse. Vous reviendrez un autre jour. Et puis, etc. Alors on peut s'imaginer cet homme, n'est-ce pas, qui tout d'un coup lui s'est dit, qu'est-ce qui manque encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis l'huissier lui dit, mais je ne comprends pas, monsieur. Vous avez ce grand château, et vous vivez dans cette petite maison. Mais non, allez dans ce château, il est à vous, regardez, venez voir, c'est écrit, vous l'avez signé, et puis c'est signé par la personne qui vous le donne. Allez-y ! Et ça m'a fait penser à ma vie avec le Seigneur. J'ai tout pleinement en lui, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est prêt à nous diriger, nous conduire, à nous apporter toutes les bénédictions. Et nous restons parfois dans notre petit coin, là, en train de vivre notre vie spirituelle, mais ça ne se développe pas, hein. C'est là. Est-ce que vraiment ce soir, nous allons dire, Seigneur, apprends-moi. Oh, je sais que ça va peut-être prendre du temps, mais Seigneur, je veux apprendre à vivre avec toi. Je veux apprendre à marcher, à être dépendant de toi. Je peux vous demander de vous recueillir? Merci. Pardonnez-moi peut-être pour quelques maladresses, mais pensez surtout à toutes les références bibliques que nous avons vues. Oubliez ces maladresses peut-être dans le parler, dans le phrasé, je ne sais pas. Pensons à tous ces versets qui nous ont parlé de cette personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « non » ? Je ne suis jamais passé par la nouvelle naissance. Et s'il y a quelqu'un qui dit « oui, je veux naître de nouveau ». La Bible dit dans ce même passage « ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Est-ce que quelqu'un veut naître sous la volonté de Dieu, mais non pas sous la volonté d'un homme ? Et puis, est-ce que nous sommes plusieurs à dire ce soir « Seigneur, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui c'est à refaire pour moi. Je comprends pourquoi il y a tant de hauts, de bas dans ma vie spirituelle. Seigneur, apprends-moi à me donner entièrement à toi. » Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu as donné parmi des milliers de promesses, cette promesse qu'un jour tu as enverré le Saint-Esprit et tu l'as envoyé. Merci. Merci parce que tu nous as dit, on l'a lu tout à l'heure, que tu ne nous laisserais pas orphelins. Merci. Et que tu nous enverrais ce Consolateur. Amen. Oui, il est en nous. Oui, il est là. Merci. Mais Seigneur, tu vois nos vies, elles sont vraiment passables, légères. Et tu voudrais qu'on ait des vies entièrement avec toi. Nous voulons avancer avec toi, mais nous sommes des incapables et nous te prions que tu viennes, que tu interviennes dans nos vies. Nous te le prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce soir. Agis pour eux. Oh Seigneur, que ton Église, dans ces fins de temps qui s'annoncent de plus en plus, que ton Église puisse luire, briller et qu'elle soit visible. Parce que toi, tu seras visible au travers de nous. Seigneur, je te prie pour que tu conduises tout ce qui sera apporté par Tim, par David. Demain, après-demain, Seigneur, agis. Agis pour toutes ces différentes réunions bibliques qui vont se dérouler demain à Rizorangis, peut-être dans d'autres lieux, mais que tu sois connu, glorifié toi seul. Seigneur, je te prie aussi que tu nous gardes dans cette soirée. Seigneur, que tu nous protèges dans nos trajets de retour, que tu renouvelles nos forces, Seigneur, et que nous continuions à te suivre, à te servir avec fidélité. Merci, merci Seigneur, de la manière dont tu as conduit cette rencontre. Père, je t'apporte cette prière par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ. Amen.